Dites à votre voisin, vous n'êtes pas si mal que ça. Alors, le texte, c'est Nombre, chapitre 14, verset 24. Et je dois reconnaître que le titre du message, que vous allez voir juste là, ça ne vient pas de moi. C'est John Le Pennec. Lui, il a le copyright de ton âne, là. Enfin, le pasteur Yvan a eu une très, très bonne idée que les pasteurs qui peuvent, ils viennent ensemble avec le pasteur qui prêche le dimanche et on met un peu les idées ensemble. Alors, l'idée pour le message, c'était John Le Pennec. David Falaise, il avait une commentaire très, très à propos sur la fille de Caleb. Mais je vais lui laisser le soin de vous le partager après la réunion. Amandine, si moi j'étais toi, je lui demanderais ce qu'il a dit, hein, parce que c'était vraiment bien. Mais il faut qu'il vous le dise, parce qu'autrement il va me tuer. Mais Nombre chapitre 14, verset 24. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu. Et ses descendants en hériteront. Alors, le nom du message, comme je dis, c'est « Saut de ton âne ». Alors gardez ça dans l'esprit parce qu'on va le rencontrer de nouveau à la fin du message. Alors, il y a des choses qui m'étonnent dans le monde. Et des gens qui sont tellement exceptionnels. Tu vois les athlètes, les sportifs qui sont capables de faire des choses qui sont hallucinantes. Et tu dis, waouh! Mais ici, nous rencontrons dans l'histoire un homme qui avait une foi hallucinante. Caleb, et enfin Josué aussi. Mais Caleb et Josué, ils sont sortis du pays de l'Égypte avec, selon le commentaire, certains disent quelques milliers, d'autres disent 3 millions et demi. Alors, il y a peut-être des centaines de milliers, des millions de gens qui sont sortis de l'Égypte, qui est enfin un type, une image d'Égypte. Mais il n'y avait que deux seuls qui sont entrés dans la pleine promesse de Dieu. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait qui a mis Caleb à part? Parce qu'il y a quatre fois, la Bible dit, excepté Caleb, vous n'entrez pas, il parle à Israël, vous n'entrez pas dans le pays où j'avais promis que passerment de vous installer, excepté Caleb. Excepté Caleb. Quatre fois, excepté Caleb, excepté. C'était l'exception. Il y avait quelque chose d'exceptionnel de sa foi. Et ce n'est pas vous, mais moi j'aimerais bien avoir une foi exceptionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, amen. Vous ne voulez pas trop parce que j'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres qui aimeraient bien avoir une foi exceptionnelle? Amen. Ouais, c'est pas si mal que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui a mis à part la foi à Caleb? On va voir en détail trois choses qui a mis à part la foi de Caleb. Toi aussi, j'espère que tu vas avoir le désir, si ça n'existe pas en toi autant, que d'avoir le désir d'avoir ces trois éléments dans votre vie. Et puis, à la fin, on va voir comment cette foi marche dans ta vie à tous les stades de la vie. Parce qu'ici, dans la salle, il y a des jeunes, comme moi. Il y a des gens au milieu de la vie. Et puis, il y a les vieux, comme Herman, par exemple. Il n'est pas si mieux que ça. Alors, mais ça marche dans tous les stades de la vie. Comment? Qu'est-ce qui a mis à côté? Qu'est-ce qui a fait que la foi de Caleb soit exceptionnelle? D'abord, c'était la direction de sa vision. C'était la direction de sa vision. Alors, Dieu, et Moïse, les a envoyés, les 12 espions dans le pays, parce qu'ils allaient prendre, mais il a dit, avant qu'on entre dans le pays, toi, vous allez, vous nous dites qu'est-ce que c'est, vous nous dites comment c'est les gens, comment c'est le produit du pays. Alors, 12 espions, ils ont regardé le pays d'eau, bas, et ils sont revenus. Et là, le produit du pays. Il y avait une grappe de raisins tellement grande qu'ils devaient le porter à deux sur les épaules. Il y avait des produits formidables de ce pays. Et 10 des espions, ils ont dit, oui, c'est un beau pays. Et oui, C'est vrai que les fruits de ce pays sont formidables. Et oui, c'est oui. Mais on a vu des géants. On a vu des villes qui étaient grandes et fortifiées. Nous ne sommes pas capables. Et tout de suite, il y a des millions de gens, des millions qui commençaient de pleurer. « Oh Dieu, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ?» Et puis il y en avait deux qui sont tenus debout, Caleb et Josué, qui ont vu la même chose que les autres, mais ils n'ont pas vu la même chose que les autres. Parce que pour Caleb et Josué, il y avait le pays, il y avait la promesse. Caleb, il a vu une ville, Hébron, il le voulait. Et oui, il y a des géants, mais c'est un détail pour Dieu. Caleb, il a dit dans une version, eux, ils seront du pain pour nous. Ce sont des macs géantes. On va les manger, des kebabs de géants, parce que là, Dieu est pour nous. Le premier groupe avait les yeux braqués sur les géants des problèmes de la vie. Et Caleb et Josué, la foi de Caleb, il avait les yeux braqués sur la promesse de Dieu. Waouh! Parce qu'il y a des gens, la vie, ils sont comme ça. Ils regardent par terre. Je ne sais pas s'ils cherchent des escargots ou quoi. Mais mes amis, levez les yeux. Dieu nous a fait des promesses. Vous n'êtes pas sur terre par hasard. Ce n'est pas un accident. Ta naissance, je t'ai déjà dit. Peut-être que tu étais le 15e de 16 enfants. Et quand ta mère a appris que tu venais, elle a dit, « Oh non, ce n'est pas possible, un autre !» Et ton père, je ne dis pas ce qu'il a dit, lui, mais peut-être pour eux, tu étais un accident. Pour Dieu, pas de tout. Pour Dieu, pas de tout, parce que tu es sur terre pour une raison. Dieu t'a créé, Dieu t'a mis, parce que oui, maman et papa étaient là pour ta conception, mais c'était Dieu qui t'a donné la vie, qui, si tu veux, qui t'a donné le souffle de la vie. Tu es là pour une raison, et si tu es là pour une raison, une mission sur terre, il ne faut pas la louper. Il ne faut pas la louper pour seulement devenir milliardaire. Il ne faut pas la louper pour seulement dire devenir président de la République. À moins que Dieu a pour ça, pour toi. Il ne faut pas le louper pour devenir vedette du cinéma. Ou, non. Moi, je veux faire la volonté de Dieu. Je suis ici pour une raison précise. Et Caleb, il a vu dans sa vie, Dieu lui avait donné une promesse. Cette ville d'Hébron, cette région montagneuse, c'est à toi. Et ses yeux n'étaient pas fixés sur les géants. Parce que pour lui, les géants étaient un détail. Dieu allait les aider de ranger les géants. Mais pour lui, ce qu'il a vu, c'est la promesse de Dieu. Et toi, hier soir, tu as bien dormi? Ça tournait dans la tête, n'est-ce pas? Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, cette personne! Oh, mon mari! Oh, ma femme! Oh, mes enfants! Oh, moi-même! On ne dit jamais ça, n'est-ce pas? C'est eux. Mais mes amis, mets ta confiance là, mets tes yeux de la direction de ta vision sur le Seigneur. Deuxième aspect de la foi de Caleb, il avait une foi audacieuse. Une foi audacieuse. Alors, vous voyez mon petit bonhomme là, il est vraiment, vraiment beau, n'est-ce pas? Mais je trouve que tellement souvent, excusez-moi de le dire, mais nous, chrétiens, souvent, nous sommes des petites mauviettes, des petites poules mouillées, des petites fleurs fragiles. On ne dit pas, OK. Mais vous savez quoi? Il faut quand même, si tu vas arriver quelque part, il faut un esprit de combat. Il faut dire, vous les géantes, écoute, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites si ce soir vous revenez à la maison? Et il y a quelqu'un qui est venu vivre dans ta maison sans rien payer, sans rien dire. Vous ne les connaissez pas du tout. Vous ouvrez la porte et ils sont là. Vous allez les laisser. Vous payez le loyer et vous allez laisser les autres. Mais tellement souvent, les chrétiens font la même chose. Dieu nous a fait des promesses. Dieu a dit que c'est pour nous et on laisse le diable faire du camping sur notre territoire, sur notre promesse. Il faut être, à mon avis, comme le chien de mon frère, Bozo. Vous ne connaissez pas le chien de mon frère? Mon frère, il était garagiste dans un village. Eh bien, un jour, il y avait un chien errant qui est venu. Quelqu'un, évidemment, ne voulait plus de chien et ne sait pas d'où il est venu. Mais quand Charlie, mon frère, l'a vu, il n'avait pas beaucoup mangé, il était dans un mauvais état. Et mon frère, qui a un bon cœur, il lui a donné à manger. Alors, c'est un Rottweiler, le chien. Alors, vous savez qu'est-ce qui se passe? Ce qui arrive, si vous donnez à manger à un chien errant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un chien, n'est-ce pas? Voilà, nouveau propriétaire du chien. Alors, il restait là, mais il était effrayant d'apparence, Bose, parce que les Rottweilers, vous les avez vus? Waouh, c'est un peu comme un bulldog. Mais Bose, bon, Bose, mon frère l'appelait Bozo, qui est un nom de clown là-bas, et Bose pour court. Ma belle-sœur, la femme de mon frère, elle l'appelait Lazy, qui veut dire paresseux. Et le petit-fils, quand il est né, il l'appelait Bud ou quelque chose comme ça. Alors, c'est le chien, il avait trois noms. Et gentil, la femme, il l'aimait. C'était drôle parce que ma belle-sœur, c'est une femme assez distinguée, un peu réservée comme ça, gentille comme tout, mais réservée, vraiment comme il faut. Et Bose, le Rottweiler avec des grands barbes. Mais il aimait beaucoup ma belle-sœur. Et ma belle-sœur, je ne sais pas pourquoi, mais elle aimait beaucoup Bose. Là, Bose, il dort dans le garage toute la journée. Et puis, les voitures passent, il ne bouge pas. Il entend le moteur de la voiture de ma belle-sœur, pardon. Il est venu. Je ne sais pas comment il a su que c'était elle, mais il a su. Alors, un jour, mon frère, il m'a dit qu'il était dans un champ parce qu'il a des vaches. Et Bose était dans le pick-up. Vous savez qu'est-ce que c'est, un pick-up? Alors là derrière, c'est ouvert. Et le chien était là derrière où c'était ouvert. Il faut savoir quelque chose de Bose. Comme je dis, il est très gentil avec les êtres humains. Mais les autres chiens, Bose aime la bagarre. Il n'est pas méchant, mais il aimait la bagarre. Wow, c'est une bonne bagarre. Si un autre chien venait dans son territoire, wow, c'était la troisième guerre mondiale et Bose, il est revenu. Le grand vainqueur de ce. Alors, ce jour-là, il était dans le pick-up, là, pas derrière. Et puis, tout d'un coup, dans le champ, là, mon frère roulait très lentement. Il y avait les chiens du voisin qui sont venus pour aboyer. Alors, à mon avis, dans ces cas-là, il y a un protocole entre les chiens. Celui qui est dans le pick-up, il reste dans le pick-up. Il aboie, il se montre sa force comme ça, mais il ne fait rien. Et ceux qui sont par terre, ils aboient, ils font le méchant, parce que s'il y a des autres filles, chiens dans la région, il faut qu'ils voient combien ils sont forts comme ça. Mais ce n'est pas plus que ça, parce que quelqu'un peut être blessé si on va plus loin. Mais il faut se souvenir du fait, Bose, il aimait la bagarre. Il n'était pas méchant, mais il aimait la bagarre. Et il a sauté au beau milieu des autres chiens. Il n'est pas resté là comme le protocole. Et il y avait des chiens qui allaient un peu partout, je crois. Alors mon frère, il s'est arrêté net là. Il ouvre pas derrière. Il dit, entre dans la voiture. Et tous les autres chiens sont entrés dans la voiture en laissant la voiture, le chien de mon frère par terre. Alors, à mon avis, il faut que toi, si tu veux une foi qui plaît au Seigneur, il faut être un peu comme Bose. Bon, quand je dis aime la bagarre, il y a trop de chrétiens qui aiment la bagarre avec d'autres chrétiens. Non, 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 non. Écoute, il y a assez de batailles, assez de combats avec le diable, hein, sans combattre avec d'autres chrétiens. Mais pourquoi rester dans notre coin, en train de pleurnicher, en train de dire, mais pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Et pourquoi lui, il est béni, et moi, je ne le suis pas? Et pourquoi ceci? Pourquoi ça? Tais-toi! Tais-toi! Lève-toi! Il y a des chrétiens qui prient, qui prient, qui prient, mais qui ne font jamais rien. Il faut qu'ils soient comme Bose. Bose n'est pas resté dans le pick-up. Il aime la bagarre. Alors, allez. Oui, tu me dis, David, je vais prendre des coups. Oui, oui, mais tu vas donner les coups aussi. Tu veux prendre du territoire? Allez-y. J'ai assez d'imagination. Et dans le temps surtout, bah, et j'ai entendu des chrétiens dans les réunions, dans des petits témoignages, ils disent des choses comme, oh, tu sais, non, en principe c'était pour s'encourager, mais ils disaient, oh, tu sais, je ne sais pas ce que je vais faire. Le diable, il m'a attaqué toute la semaine. Et bien, ça ne va pas, et 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 ça ne va pas. Et puis à la fin, il devait dire quelque chose de spirituel, alors il disait quelque chose peut-être comme, et le Seigneur, il peut faire la même chose pour toi aussi. Et on dit, oh, j'espère que non. Mais dans mon imagination, je me dis, je sais que ce n'est pas vrai, mais si les diables, les démons, ils avaient une réunion à la fin de la semaine pour parler de leur semaine. Et tu vois un petit diable là, qui a la tête bondage, l'œil au beurre noir, le bras cassé dans un truc là, et puis la jambe cassée, il marche avec une béquille, et lui, il témoigne. Oh là là, ce chrétien-là, il a été auprès de moi toute la semaine. Il m'a attaqué toute la semaine, ce chrétien-là. Pourquoi pas? Hein? On glorifie tellement le diable. Donnez des coups toi-même. Petite moule. Amen, vas-y. Ne restez pas dans ton coin. Une foi audacieuse. Caleb a dit, donne-moi cette montagne. 85 ans. Le vieux, barbe blanche, cheveux blancs, marche devant Josué là. Josué, il y avait 45 ans de cela. Moïse m'a donné cette montagne, Dieu m'a donné cette montagne. Maintenant, toi, donne-moi cette montagne. Et peut-être tous les autres ont dit oui, donne-lui la montagne. On ne le veut pas parce qu'il y a des géants toujours là. Et toujours pour Caleb. 40 ans, 85 ans, les géants sont un détail. Et mon ami, si tu mets ta confiance en Jésus, les géants sont un détail. Parce que chacun de nous, on a des géants dans la vie. Si on pourrait parler cet après-midi, tu me dis, tu me parles de tes géants, moi je te parlerai de mes géants. Et on va rivaliser, mes géants sont plus grands que tes géants et tout ça. Mais pourquoi dire, mon Dieu est plus grand que les géants, de toutes les géants, de tous les géants de ma vie. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours réveillés? Donnez un coup de coude à votre voisin. Il y en a quelqu'un qui dort, qui dort. Troisième aspect de la foi de Caleb, c'était une foi avec les yeux braqués sur le Seigneur. C'était une foi audacieuse et c'était une foi qui a pleinement suivi la voie du Seigneur. Caleb aimait Dieu. Pour lui, ce n'était pas une religion. Il y avait beaucoup de gens qui sont sortis d'Égypte, ils ont suivi une religion. Caleb avait beaucoup plus qu'une religion. Il avait une relation vivante avec le Dieu vivant. Je crois qu'il y a 5 fois, il est dit quelque chose comme Caleb a pleinement suivi les voies du Seigneur. Il a pleinement suivi la voie du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui veulent les bénédictions de Dieu sans se donner vraiment. Tout au début, quand j'étais au Luxembourg, on avait un café bar en France, à Longwy. Et là, j'ai parlé un soir avec un jeune musulman du Seigneur et je lui ai dit, est-ce que vous aimeriez bien avoir le pardon de péché? Il dit, oui. Et j'ai dit, est-ce que vous aimeriez bien prier pour avoir le pardon de péché? Et il a dit, oui. Et je me dis, waouh, super. Et on a prié pour le pardon de péché, mais il n'y avait pas de suite. Il voulait le pardon de péché, mais il ne voulait pas Jésus. Et je me dis, tu sais, beaucoup de gens, ils veulent les bénédictions de Dieu. Ils veulent être guéris de la maladie. Ils veulent que Dieu solutionne, résoudre tout le problème. Ils veulent le pardon de péché, mais ils ne veulent pas de Jésus. Il ne veut pas donner son cœur. Et mon ami, moi je me dis, c'est comme le mariage sans ton épouse. C'est la meilleure partie, ton épouse, pour les hommes. Et pour les femmes, j'espère que le mari, c'est la meilleure partie. Des fois, c'est un peu casse-pied. Mais en principe, c'est la meilleure partie. C'est la meilleure partie. Pourquoi veux-tu la religion sans Jésus? Pourquoi veux-tu la religion sans Jésus? Là, je me souviens, quand le Seigneur commençait de travailler notre cœur pour quitter notre pays, les États-Unis, et pour venir ailleurs, pour aller ailleurs. Et au début, je ne savais pas si vraiment le Seigneur voulait qu'on aille dans un autre pays ou bien s'il voulait seulement que notre Église donne beaucoup d'argent à la mission. Et j'espérais qu'il voulait qu'on donne beaucoup d'argent à la mission et qu'il me laisse tranquille, moi, hein, parce que j'aimais bien ma maman et mon papa et toute la famille et mes équipes de sport et ma vie là-bas. Mais ça tournait, ça ne me laissait pas tranquille. J'attendais qu'un ange vienne, va quelque part, mais il n'est pas venu. Mais ça ne m'a pas lâché, ça ne m'a pas laissé tranquille. Alors en soi, c'était le mois de juin 1979. Vous, les jeunes, vous êtes étonnés qu'il existe une date tellement éloignée où habitaient les hommes Cro-Magnon, je ne sais pas. Mais oui, on était dans une réunion, je me souviens bien. J'étais vraiment touché, ému ce jour-là. Et le Seigneur, il était en train de me parler, je ne savais pas exactement ce qu'il disait. Ce soir-là, dans la réunion, le pasteur, il a prêché et je me suis approché, Félix avec moi, les deux, le Seigneur était en train de nous travailler. Et tout d'un coup, j'avais une expérience. Et c'est rare. J'en parle pas beaucoup parce que je veux pas qu'on soit fixé sur le relief. Il y a des gens qui voient des anges, qui voient des visions, qui voient toutes sortes de choses. Et peut-être, je sais pas moi, mais je sais ce qui m'est arrivé cette fois-là. Et à mon avis, ça n'arrive pas souvent dans notre vie. Et là, quand j'étais en train de chercher la face du Seigneur, tout d'un coup, Jésus s'est manifesté, il s'est révélé. Et ça m'a bouleversé. Parce que j'étais un peu surpris. Bon, je connaissais le Seigneur, j'aimais le Seigneur, j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'avais fait des expériences avec le Seigneur, mais je n'avais jamais de ma vie fait une expérience comme ça. Parce que tout d'un coup, il était là. Je n'ai pas vu de mes yeux, mais sa présence était tellement forte. C'est comme, je suppose, si tu es aveugle, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est juste devant toi, même si tu ne le vois pas. Il était là. Mais ce qui m'a surpris, c'était l'amour de Dieu que j'ai ressenti. Parce que j'ai grandi dans une situation assez légaliste et je voulais toujours plaire au Seigneur. Alors pour plaire au Seigneur, il faut lire plus la Bible, il faut prier plus, il faut être plus souvent à l'assemblée. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas faire en sorte que Dieu t'aime. Parce que j'ai quelque chose qui va vous étonner. Mais Dieu ne va pas t'aimer plus qu'il t'aime déjà. Parce qu'il t'aime déjà dans l'amour éternel. Il t'a déjà aimé avant que tu sois né. Il t'a déjà aimé de loin, avec tout son cœur, avec tout son être, avec toute sa force. Et pour dire, Dieu, tu vas m'aimer plus si je fais ça, c'est impossible. Il ne peut pas t'aimer plus qu'il t'aime déjà, parce qu'il t'aime déjà à l'extrême. Et là, j'ai senti l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a bouleversé. J'ai pleuré comme un enfant. Et dans ce moment-là, le Seigneur il m'a parlé. Il m'a dit, David, est-ce que tu iras pour moi? Et je savais ce qu'il voulait dire. Et je me suis dit en moi-même, je serais vraiment un nul si je disais non à quelqu'un qui m'aimait tellement. Parce que c'était ça que j'ai vraiment compris, l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui m'a bouleversé. Et si j'ai quitté ce que j'aimais, et les gens que j'aimais et toutes ces autres choses, la raison était, il y avait une personne qui m'aimait, je savais qu'il m'aimait et je voulais me donner à lui. Et pour moi, l'élément fondamental de la foi n'est pas vraiment imaginer des choses dans ta tête que Dieu peut faire. Ça commence avec un amour pour Jésus. Parce que si vous aimez Jésus plus que vous aimez toute autre chose, le reste, ça viendra. Mon ami, la foi de Caleb, c'était un homme qui s'est tout à fait donné au Seigneur. Les autres, lui, Dieu a été infidèle à Dieu. Mais Caleb a dit non. Non. C'est une foi qui aimait Dieu. C'était une foi audacieuse. C'était une foi qui avait les yeux fixés sur Dieu, sur sa promesse. Et puis, ça marche cette foi pour Caleb, mais ça marche pour toi aussi. Dans chaque étape de ta vie. Dans chaque étape de ta vie, quand Caleb a eu cette première expérience à 40 ans, bon, peut-être il faisait la crise de la quarantaine, je ne sais pas. Lui, il y avait quelque chose qu'il voulait. Et c'était la promesse de Dieu. C'était le pays de promesse. Et puis quand le peuple a rejeté cela, il a même déchiré son vêtement. Parce que dans cette culture-là, c'était une signe de frustration, c'était une signe de deuil. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu es rebelle contre le Seigneur? Et puis Caleb, quelque part, il n'a pas été puni, mais il a dû subir la même chose que les rebelles ont subi. 40 ans, il a tourné dans le désert. Ce n'était pas sa faute. Tu sais, le milieu de la vie, 40 ans, on se rend compte. Quand mon fils avait à peu près cet âge-là, j'ai dit, Steve, tu sais, maintenant, tu es la moitié mort, toi. Parce que 40 ans, c'est la moitié de la vie. Moi je suis 75% mort. C'est pas trop gay, cette pensée. Mais de toute façon, et là, on se pose des questions. Peut-être 40 ans, tu savais ce que tu allais faire. Quelqu'un a dit hier que, il citait une autre personne qui a dit, oui, si tu n'as pas un Rolex, la montre, Rolex à 50 ans, tu as raté la vie. Alors, je crois que la plupart d'entre nous, on a raté la vie, n'est-ce pas? Heureusement, je n'ai pas besoin de ça. Mais ce n'est pas le Rolex. C'est souvent professionnel. C'est souvent, on est là 40 ans, on n'est pas encore marié, et on a dit, mais à 40 ans, je croyais avoir 10 enfants déjà. Peut-être pas autant. À 40 ans, je croyais être patron. À 40 ans, mais lui, il a été promu parce que c'était le bon copain du patron. Il buvait avec lui le week-end, et ce n'était pas le mérite, mais là, etc. Oui, on parle de ça, mais ça arrive. Ça arrive. On fait de son mieux. Et puis l'autre est récompensé. On se donne à fond et l'autre est récompensé. Et on a des crises. Et dans la vie, quand ça n'a pas été ce qu'on attendait et on fait le point, on a la tendance de dire, non, 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 mais il faut faire autre chose. Il faut que je fasse quelque chose. Ma vie, c'est la mort qui est finie maintenant. Il faut que je fasse autre chose. Et là, tu vois les hommes. Il change la coiffure, et puis il s'achète une nouvelle chemise, il le déboutonne jusqu'au nombril, il s'achète une voiture de sport, et puis il sort avec la secrétaire. Et sa femme le tue. Non, non, ça c'est une autre chose. Mais, c'est ça là que. Tu sais ce que Caleb a fait? Il était déçu. À 40 ans, sa vie n'a pas été ce qu'il voulait. Tu sais ce qu'il a fait? Il a gardé la vision. Il a gardé la vision. Sa foi voyait toujours cette montagne que Dieu lui avait donnée. Sa foi voyait les têtes des géants un peu partout morts. Parce que lui, il allait prendre cette vision. Il marchait dans le désert là. Et quand il avait les yeux ouverts, il voyait des coyotes. Il voyait des moutons pleins de puces. Il voyait toutes sortes de choses. Mais quand il fermait les yeux, il voyait cette montagne que Dieu lui avait promis. Et il a dit, moi j'aurai cette montagne. 45 ans, ce n'est pas encore arrivé, mais quand il avait 85 ans, un peu avant, il est entré dans le pays de promesse. Et mon ami, peut-être toi, tu es là et tu dis, je ne suis pas arrivé, je ne vais jamais arriver. Dieu a mis quelque chose dans ma vie, mais dans mon cœur, et j'avais cette vision, mais je ne l'ai pas encore fait. Je vous encourage, écoute, si ça vient de Dieu, lève-toi, Boz. Lève-toi, Caleb. Lève-toi avec ton audace et là, fais ce que Dieu t'appelle à faire. Oui, il te soutient au milieu de la vie. Il te soutient même quand tu es vieux. Alors là, la plupart d'entre vous vous dites, oh, David vieux, oh, donne-moi des jumelles. Je ne peux même pas voir la vieillesse de là où je suis. J'ai une nouvelle, une bonne nouvelle pour vous. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Si vous continuez de vivre, vous allez être là un jour. Et vous savez, comme moi, j'avais votre âge. Je me dis, bon, les vieux, ça, quoi, bon, on les aimait beaucoup, mais c'était les grands-pères qui ne pouvaient même pas faire marcher une chaise basculante. Ils étaient tellement faibles, capables de faire grand-chose. Mon grand-père, il a passé une grande partie de la dernière partie de sa vie dans une petite, sur le porche de la maison, en train de fumer sa pipe, on regarde le monde passe. Et je me dis, quoi? Quoi? J'ai un oncle. Je vois sa femme, elle est sur Facebook, ils ont à peu près 75 ans. Et il me semble que le point fort de chaque semaine, c'est quand ils vont au médecin et puis ils sortent pour manger au restaurant après. Et je dis, quoi? Seigneur, si c'est ça, non, 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 non. La vie ne prend pas fin jusqu'à ce que vous preniez votre dernier souffle. Il y a des gens qui se font vieux. J'entends des amis. Ouais, tu sais. Oui, je sais. Arrête tout ça. Moi, aussi, je le fais des fois. Félix et moi, on fait les compétitions. Oh, ma douleur, c'est plus grand que ta douleur. Marie, vous savez ce que je trouve après un certain âge? Tu pries là, le Seigneur te guérit, et la douleur, ça se déplace là. Et puis tu pries là, et ça se déplace là. Et à un certain âge, le douleur, ça ne part pas, ça se déplace seulement, tu crois. Alors, mais pour dire, c'est pas ça qui va t'arrêter de faire la volonté de Dieu. Vous m'avez entendu? Caleb, il avait le même feu dans son cœur quand il avait 85 ans que quand il avait 40 ans. Moi, je crois qu'il avait encore plus. Parce que moi, je n'aurais pas aimé être Josué si Josué avait dit non. Il aurait eu une bataille royale avec le vieux Caleb parce que Caleb aurait dit, écoute, 45 ans, moi, je traverse ce désert. 45 ans, je vois la promesse de Dieu et je vais la voir, Josué, parce que Dieu me l'a promis. J'ai taquiné un peu Monique, elle m'a presque attaqué après la réunion, mais notre sœur Monique, j'ai dit, Monique, est-ce que tu vis ici à la salle? Parce que chaque fois que je viens, elle est là, en train de nettoyer, en train de faire ceci, cela. Disons, tu crois que quand Monique elle sera morte, et dans le cercueil, pendant 3 jours, tu vas entendre, boum, 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 parce que tellement elle est énergique. Et elle n'a pas 40 ans, hein, elle a un peu plus. Mais elle n'a pas dit, oui, tu sais, maintenant, j'ai X nombre d'années. Je ne vais pas me faire tuer. J'ai un certain nombre d'années et je vais laisser faire les jeunes. Et écoute, vous les jeunes, il faut suivre Monique hein, si vous voulez être forte. Hein. Vraiment. Mais pour dire, c'est fini ma vie, ça c'est... J'étais à Bordeaux dernièrement. J'ai rencontré un pasteur de 87 ans. Il a dit, j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis toujours en déplacement, prêcher à droite et à gauche. Et il a un problème avec un cancer, un traitement de cancer. Il n'arrête pas. Je croyais qu'il était vieux. Je voyais un autre, un pasteur tzigane ce matin-là. 90 ans, qui prêchait toujours. Je dis, oh Seigneur, je croyais qu'un jour, j'aurais un peu de repos. Mais il me sent, waouh. C'est pas l'âge qui t'arrête. Le Dieu de Caleb, c'est un Dieu quand tu as 40 ans, c'est un Dieu quand tu as 85 ans, c'est le Dieu de 15 ans. De 15 ans. Moi, j'aime bien la fille de Caleb. David, je ne vais pas le dire, OK? Mais demandez après la réunion ce qu'il a dit, parce que c'était vraiment génial. Je croyais qu'il avait une perspicacité spirituelle au-delà de normal. Mais ça, c'est une autre prédication. Cette fille qu'on Caleb voulait inspirer ses troupes pour attaquer la montagne, pour le prendre. Il a dit, je donnerai ma fille Aksa à celui qui prend cette ville. Alors, Othniel, il a dit, wouhou! Et il a pris ses bonhommes, et il a pris la montagne, il a pris la ville, et il est devenu maître de ça. Bon, c'était Caleb. Et puis, Caleb, il a gardé la parole. Il a donné la fille à Othniel. Mais tu sais quoi, cette fille, c'était papa tout craché. C'était papa bis. C'était la jeune génération. Mais j'entends, écoute, des fois, les gens disent, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme dans notre temps. Et je dis, c'est vrai, ils sont meilleurs. Ils sont mieux que dans notre temps. Vous, les jeunes, je crois qu'il y a assez de potentiel ici, dans cette pièce, pour bouleverser la vie de Paris pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la même foi qui était dans cette génération qui a commencé l'œuvre de Dieu en France. C'est la même foi qui est dans la jeunesse aujourd'hui qui se lève, comme Aksa. C'était la foi de son papa. Alors, Aksa, la Bible dit, dès son arrivée auprès de son mari, qu'est-ce qu'elle a fait? La toute première chose. Alors, Othniel, il est content. Wow, on va avoir la lune de miel. Wow, la romance et tout ça. Elle a dit, elle engagea. Othniel a demandé un chant à son père Caleb. Attends. Quoi? Lune de miel? Chant? Les chants, ça peut attendre. Non, la fille, elle savait ce qu'elle voulait. Elle avait une vision de ce qu'elle voulait, de ce que son père allait lui donner. C'était son père tout craché. Je ne sais pas si Caleb a eu des fils ou non, mais la fille, c'était Caleb. Et là, j'aime beaucoup. Alors, elle a dit, « tu demandes ce champ à papa. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait ou non, mais ils avaient besoin de l'eau pour ces champs. Et évidemment, Othniel avait à peu près un peu peur de papa, beau-père, parce que, enfin, il n'avait pas peur des géants, mais il avait peur de son beau-père, parce qu'il y a des frères qui sont un peu comme ça. Vous n'avez peur de rien, sauf votre beau-père et votre belle-mère. Non, non, ça... Mais c'est elle qui l'a fait. Puis, elle est venue à son père, Caleb. Elle sauta de son âne. Elle sauta de son âne. Alors, je ne sais pas. Vous, les femmes, vous avez une certaine grâce dans vos mouvements et tout ça, que nous, les hommes, on est assez maladroites, assez... Mais vous, les femmes, vous arrivez de bouger comme ça avec une certaine grâce. Alors, normalement, on dirait... Une femme qui est sur un âne, là, quand elle arrive, elle arrête tout gentiment, très féminine, et avec beaucoup de gentillesse, peut-être même avec un peu d'aide d'une autre personne, parce que c'est quand même une femme. Et elle est là pour descendre en toute gentillesse et tout, et comme il faut. Elle sauta de son âne. T'as vu des films de cow-boy où le cow-boy il est sur son cheval et puis il saute de son cheval pour faire ce qu'il doit, tuer le méchant ou quelque chose comme ça. Elle savait ce qu'elle veut. Elle n'est pas venue comme ça. Elle sautait, elle vient. Sans doute papa, il a vu ça avant. Oh là là, qu'est-ce qu'elle veut maintenant, ma fille, hein? Parce que c'est vrai que les filles, elles savent manipuler papa. N'est-ce pas les papas? N'est-ce pas les filles? Parce que quand ça ne marche pas avec maman, si tu demandes d'abord à papa, papa, gentil petit papa, il sait exactement ce que tu fais et il va le faire de toute façon. Hein. Pourquoi? Parce que là, les filles, elles sont en train de, en formation d'être épouses après. Alors, manipulation. Bien que les épouses... Les filles doivent rester gentilles, mais les épouses, tous les moyens sont bien. Alors ça, c'est aussi une autre prédication. Je crois. Mais elle vient et dit, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, tu nous as donné un champ, mais on a besoin de l'eau pour exploiter ça. Alors il n'a pas donné seulement un peu, il lui a donné deux sources dans deux endroits différents. Et vous savez quoi? Le mari... Je crois qu'il avait peur de demander parce qu'il ne connaissait pas. Il connaissait Caleb, le grand général. Il connaissait Caleb avec le feu dans les yeux. Il connaissait Caleb, le héros d'Israël. Mais il ne connaissait pas Caleb comme papa, comme Aksa l'a connu. Mais elle savait que mon papa, il m'aime. Et ce dont j'ai besoin, il va me donner s'ils peuvent le faire. Je sais que j'ai visité ma famille aux États-Unis dernièrement et ma fille et moi, nous sommes promenés un peu, on est allés pour prendre une tasse de café. Et puis, on a parlé cœur, même bien qu'elle a X numéro d'années, elle est plus si jeune qu'avant. Mais là, ça m'a touché parce que c'est ma fille. Et je me dis, je mourrai pour cette fille parce que je l'aime tellement. Est-ce que vous savez que votre père, il vous aime autant que ça, jeune homme, jeune femme? Vous n'êtes pas exclu de sa grâce ni de son amour. On croit qu'il faut vraiment arriver et puis Dieu va vous aimer. Écoute, si vous devez arriver vraiment à la perfection avant que Dieu t'aime, tu ne seras jamais aimé par Dieu. Amen. Vous savez qu'est-ce qui comble cette brèche, cette distance entre ce que tu es et ce que tu devrais être? Ça s'appelle l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Il t'aime. Tu es précieuse pour lui. Ta vie a une valeur. Ta vie a une valeur. La foi de Caleb, c'était une foi qui osait. C'était une foi qui regardait le Seigneur. C'était une foi qui aimait Dieu plus que toute autre chose. C'est une foi qui marche à toute étape de la vie. Si vous êtes jeune et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Si vous êtes dans la crise de la quarantaine, tu dis, mais ma vie, où va-t-elle? Si tu es commence d'avoir un petit peu d'âge et tu as peur parce que tu n'as pas accompli ce que tu voulais et tu dis, mais qu'est-ce que ça va donner par la suite? J'ai une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. La foi de Caleb, ça marche dans ta vie aussi. La foi de Caleb, ça marche dans ta vie aussi. Je crois vraiment dans mon cœur. Il y a des frères, des sœurs qui vous êtes venu dans la réunion et vous avez toujours des points d'exclamation dans ta vie. Tu as toujours des points d'interrogation dans ta vie. Des trois points là, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Ou bien, qu'est-ce que je deviens? Ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça. Et vos yeux sont braqués sur les géants. Je vous invite à faire quelque chose cet après-midi. Tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être ton amour est devenu un peu tiède. Peut-être il y avait une période de ta vie où tu aimais le Seigneur plus que tu l'aimes maintenant. Mais tu as laissé la vie te prendre et tu n'es pas tout à fait écarté du Seigneur, mais ce n'est pas le même feu qu'avant. Ce n'est pas la même joie qu'avant. Peut-être tu trembles devant les géants. Et au lieu d'entrer dans la présence de Dieu et la promesse de Dieu, tu restes éloigné parce que tu as peur. Tu as peur, tu as peur. Je me souviens au Luxembourg, la deuxième église, on a commencé avec des autres. C'était dur, c'était difficile. On avait une petite salle assez nulle et on arrivait à un moment où c'était plein et il fallait acheter, il fallait faire autre chose, mais on n'avait pas beaucoup de sous, on n'avait pas beaucoup de monde. Mais je me dis, si on reste dans cette salle, on va toujours tourner en rond. Il faut savoir que le pays de Luxembourg, c'est difficile pour l'évangile. Ça grandit beaucoup maintenant, mais dans le temps surtout. Je crois que il y avait, bon, quand nous sommes venus tout au début, je crois qu'il n'y avait pas une autre église de plein évangile dans tout le pays qui s'exprimait dans une langue que les Luxembourgeois comprenaient. Et là, on a commencé des églises, mais c'était difficile. Et là, je me dis, Seigneur, il faut qu'on fasse quelque chose. On a trouvé une salle, mais j'avais peur. J'avais peur. Même des fois, je me réveillais la nuit et je ne pouvais pas dormir parce que ça tournait dans la tête. Ça n'a pas l'air de foi. Mais vous savez, la foi n'est pas toujours « Wouh !» La foi, c'est seulement obéir à Dieu même quand tu as peur. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que... Parce qu'autrement, si on ne le fait pas, on sera comme les enfants d'Israël, on va tourner toujours dans le désert. Et j'en avais assez de tourner dans le désert. Et par la foi, on s'est lancé. Je peux dire... Aujourd'hui, cette église, elle est bien installée dans cette salle. C'est une bonne petite église. Le bâtiment est tout à fait payé. On avait près de 15 ans, on l'a payé en 9 ans. Le Seigneur, il était fidèle. Mais à mon avis, si on n'avait pas fait ce pas de la foi, l'église n'existera même pas aujourd'hui. Et je crois que même pour nous, il y avait des moments où on n'a pas saisi, par la foi, ce qu'il fallait saisir. Et on a manqué d'accomplir la volonté de Dieu, la promesse de Dieu dans notre vie, à cause de la crainte, ou parce qu'on n'a pas voulu, parce que nous aimions d'autres choses plus que nous aimions le Seigneur, ou bien. Je vous défie cet après-midi. Je vous défie d'avoir la foi de Caleb, la foi de cet homme de Dieu qui aimait, qui osait, qui mettez les yeux sur le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour le fait que tu es là pour nous. Je prie de tout mon cœur. Seigneur, viens puissamment. Seigneur, nous ne voulons pas que ça soit seulement une autre réunion. Seigneur, viens puissamment maintenant dans cette réunion, cet après-midi. Tu vois nos cœurs. Seigneur, il y a quelques personnes ici devant un défi. Et ils ont peur. Et ils hésitent, ils basculent. Parce que là, ils savent qu'ils doivent prendre cette décision, cette occasion, cette opportunité par la foi. Mais ils ont peur. Seigneur, d'autres, l'amour a diminué dans le cœur. Et c'est vrai qu'il y a un peu d'amour qui reste pour toi. Mais il y a beaucoup d'amour qui est pour autre chose. Et Seigneur, les autres, des autres qui ont les yeux braqués sur les géants. Seigneur, ils passent la journée dans la misère. Parce qu'au lieu de voir ta promesse, ils ont fini de regarder ta promesse. Ils regardent les géants. Les pourquoi pas. Mais, Seigneur, s'il te plaît, on a fini avec ça cet après-midi. On a fini avec cela. Seigneur, donne-nous la foi de Boaz. Donne-nous la foi de Caleb, Seigneur. Donne-nous cet amour. Donne-nous cette audace. Seigneur, aide-nous. L'équipe va chanter maintenant. Et je vous invite, si vous vous sentez interpellé par ce que vous avez entendu cet après-midi, peut-être être renouvelé dans ton amour. Peut-être il faut saisir une situation, mais vous avez peur ou bien vous avez loupé une occasion, la cause de la crainte. Et vous voulez demander pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, s'il te plaît, encore une fois, cette fois-ci, je vais obéir. Si vous sentez vraiment que le Seigneur te parle, je te demande de te mettre debout maintenant, s'il vous plaît, avec moi. Seigneur, vois, tout d'un coup, tout, 100% Jésus, 100% Seigneur. Si j'ai ce que je veux, oui. Mais si je n'ai pas ce que je veux, oui, toujours. Parce que je ne te sers pas seulement pour ce que tu fais pour moi. Je te sers parce que je t'aime de tout mon cœur. Est-ce qu'il y a des autres qui veulent se mettre debout avec ceux qui sont déjà là? Je vous invite même de lever les mains vers les cieux pendant que l'équipe chante et dit, Jésus, renouvelle mon amour. Jésus, renouvelle ma foi. Jésus, j'ai mis les yeux sur toi. Seigneur, aide-moi.
Je suis tranquille.